Annoncé comme un cataclysme, le cyclone tropical Belal a frappé l'île de la Réunion de plein fouet. Pour la première fois, l'alerte violette danger exceptionnel a été déclenchée, les habitants confinés.
Incroyable! J'ai jamais vu ça en 36 ans de vie, c'est un truc de malade!
Impressionnant, destructeur, mais finalement moins intense que prévu, Belal a tout de même balayé l'île avec des vents à plus de 200 km/h. Des pluies diluviennes se sont abattues sur toute la Réunion. Et si ce scénario devait se répéter plus souvent, de façon plus extrême encore? Le réchauffement climatique favorise des phénomènes météorologiques hors normes. En 2023, les tempêtes, les vagues de chaleur et les inondations se sont multipliées à la surface du globe. Le nord de la France subit depuis plusieurs mois des précipitations records, des crues et des inondations à répétition qui mettent le moral des habitants à rude épreuve. Des États-Unis, autre décor. Un froid polaire balaye depuis plusieurs jours l'Iowa. Le mercure peut descendre jusqu'aux alentours des moins 30 degrés. Ça pique, même quand on est habitué à des hivers enneigés.
Il fait un froid glacial dehors.
Va-t-on devoir apprendre à vivre avec ces épisodes météo de plus en plus extrêmes? Doit-on repenser nos habitations et notre mode de vie? Sommes-nous en mesure de nous adapter au dérèglement climatique?
Ils puisent leur énergie dans la chaleur de l'océan. Donc plus cet océan va être chaud, plus ils auront de l'énergie pour pouvoir se développer, pour avoir de la vapeur d'eau qui va se condenser, qui va se précipiter, donc des précipitations importantes. Cette chaleur aussi, c'est de l'énergie, donc elle se transforme en énergie cinétique, des vents qui sont encore plus violents. L'aspect positif de ces cyclones, on l'oublie souvent, hein, c'est qu'ils sont là aussi pour refroidir l'océan. Et donc ces mécanismes naturels qui visent à réguler la température sur notre planète, malheureusement, font des victimes quand nous sommes sur leur sillage.
Ça fait le débat sur le mot de dire changement, dérèglement, réchauffement, ça fait plus de 20 ans qu'on l'a. Et ce qui compte, c'est qu'en tout cas, il y a un problème, voilà. Il y a des conséquences. Ouais. Et il faut agir plutôt que passer du temps sur le mot. Mm-hmm. Il y a un dérèglement, un changement climatique. Et ça ne veut pas dire qu'il va faire plus chaud, plus froid. Plus chaud, oui. Mm-hmm. Mais il faut aussi compter, comme là, on voit aux États-Unis, c'est que les événements sont plus extrêmes. C'est ça qui compte. Mm-hmm. C'est la fréquence et la puissance de ces événements.
Sont sensibilisés récemment, et d'ailleurs eux, c'est leur génération en plus, ils sont très préoccupés par tous ces problèmes d'environnement, ça c'est certain, le réchauffement climatique, ce qu'ont fait leurs aînés, etc., ce qu'ils payent aujourd'hui, donc c'est vrai qu'ils sont très sensibilisés là-dessus, on a beaucoup de mémoires, de projets d'architecture aussi qui sont orientés dans cette direction-là. Après, pour les risques majeurs, il faut savoir une chose, c'est qu'en France, il n'y a toujours pas de formation obligatoire aux risques majeurs. Il y a quelques initiatives, alors j'en fais partie d'ailleurs, l'école de Belleville, il y a un post-diplôme. L'école Paris-Val-de-Seine, j'ai aussi créé des enseignements en master. Il faudrait que ce soit un tronc commun, parce que l'architecte est quand même l'un des acteurs majeurs de la transformation
du
territoire.
C'est pas encore dans le tronc commun d'enseignement.
Non, justement, d'accord. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il serait bien de former les architectes à cela, parce que il faut savoir, par exemple, dans le cas d'un séisme, plus de 50% des dommages sont liés à des erreurs architecturales, de design,
50%
de concept.
C'est qu'ils sont plus puissant. Et pour compléter le propos de Boris, aujourd'hui, d'un point de vue légal, en Outre-mer, les formations des salariés du privé comme du public sont obligatoires sur les risques majeurs. Donc, il y a un progrès législatif, alors pas dans les formations, mais au niveau des populations, au niveau des salariés, sur l'exposition des salariés, risques liés à l'activité économique qui est directement impactée.
Mais seulement dans le cas des Outre-mer.
Uniquement en Outre-mer.
Pas la métropole.
Pas l'Hexagone pour l'instant. L'Hexagone n'est pas encore concerné par cette loi qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2024, justement pour accompagner les populations à la compréhension des risques auxquels elles sont exposées.
Amandine. Il y a quand même une perte de mémoire. Pas forcément sur les techniques, mais une perte de mémoire sur les événements. On a vu que, oui, c'est des événements exceptionnels par leur force, mais c'est des événements qui sont déjà arrivés. Mmh. Et il y a aussi, de fait, la perte de mémoire de choisir où on va habiter. Vous prenez Xynthia, il y a un documentaire qui est sorti il y a pas longtemps.
C'était en 2010, Xynthia.
Voilà, en 2010, et ben là, tout le monde avait l'air surpris, mais il y a déjà eu des événements de cette ampleur. Mmh. Mais il se trouve que les gens n'habitaient pas aussi proche de la mer, n'avaient pas forcément envie d'avoir vue sur mer, et ils habitaient parce que c'était une histoire et c'était vraiment une transmission en fait de attention là où vous allez habiter. On reste quand même en retrait sur les terres. Et c'est pareil pour ce qui se passe en Haute-France. Mmh. On est sur des constructions, ce qu'on a vendu aussi, hein, et qu'on continue à vendre, qui est la maison pavillonnaire, dans des zones de vallée, dans des zones donc du coup vulnérables, avec des terrains donc pas chers. Et là, on va laisser construire dans ce qu'on appelle des lits majeurs. Et quand il y a des grandes crues, ou comme là, avec le réchauffement climatique, les sols qui sont secs, qui ont du mal aussi à s'imprégner et s'infiltrer, surtout en Pas-de-Calais, là, avec un sol argileux, et ben, on se retrouve comme ça. Et vous voyez, les constructions des années plus vieilles, elles sont en hauteur, elles ne sont pas dans les creux de vallée.
Alors... de la Bretagne. À Saint-Pierre-sur-Dive, la ville est sinistrée à 80%. Des dizaines de tonnes de béton, de pierre et de bois se sont envolées, des vies écrasées. Une femme est tuée ici par la chute de sa cheminée. Au total, 18 personnes vont trouver la mort dans le nord-ouest. Dans toutes les casernes, les pompiers sont débordés. À Rouen, la cathédrale est touchée en plein cœur. Un clocheton a crevé la voûte et s'est écrasé 28 mètres plus bas. On se réveille sous le choc. Ce jour-là, 53 personnes trouveront la mort et les esprits resteront marqués à jamais.
Véritable problème qui est récurrent dans toute la mitigation des risques majeurs. En fait.
Mais très concrètement, par exemple, sur les vents, est-ce qu'aujourd'hui, quand on construit
à chaque fois,
des gratte-ciels, enfin, je ne sais pas,
à chaque
est-ce
fois,
qu'on fait attention à ça après
alors, 1889. C'est moins une problématique de normes. Les normes, elles ont évolué, c'est certain, et toute grande catastrophe nous mène à revoir ces normes systématiquement. Pratiquement au niveau des populations, mais au niveau des autorités aussi, de tous les acteurs.
Oui.
Donc, on va passer ça en second plan. On va moins s'occuper de prévention et donc la catastrophe va être bien pire. Et ça, c'est un véritable problème qui est récurrent dans toute la mitigation des risques majeurs, en fait.
Mais très concrètement,
elles ont évolué, c'est certain, et toute grande catastrophe nous mène à revoir ces normes systématiquement. En 89, le cyclone Hugo, par exemple, que je connais bien, a imposé dans les constructions des attaches paracycloniques entre les structures verticales et horizontales, etc. Bon, et à chaque fois, il y a des évolutions qui se font. Mais il existe des règles de construction en parasismique, en paracyclonique, etc., qui sont très efficaces et on sait construire. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas la main sur tous les types de constructions. Il y a ce qu'on appelle l'habitat informel, par exemple.
C'est quoi l'habitat
difficile.
Informel ?
Par exemple, l'habitat qui est... Oui, les bidonvilles, les choses comme ça. On en a beaucoup en Martinique.
Oui.
On a tout le quartier Trenet le Citron avec des gens. Même à La Réunion, il y en a aussi. En France aussi, il y a des quartiers avec des gens, avec des maisons qui sont livrées à l'autoconstruction. Je m'occupe beaucoup du Maroc en ce moment, suite au séisme aussi. Là, on a aussi affaire à des gens qui construisent eux-mêmes leurs maisons. Donc ça aussi, on n'a pas toujours la main sur tout. Planification. Mais vraiment, parce qu'on a perdu ça, on n'a plus de ministère en charge de l'aménagement du territoire.
Oui.
Ça, c'est une chose qu'il faudrait refaire. C'est-à-dire qu'on met des rustines. C'est qu'on va là. Et ça, c'est un vrai problème en France. Et ça, il faut revenir à ce système.
Effectivement, en Outre-mer, des exemples de collectivités, de maires qui ont pris leurs responsabilités. Miquelon en est un bon exemple.
Ouais.
De planification, de déplacement d'une population, d'éménagement en fait du bâti, avec tout ce que ça implique, hein, la mémoire, les anciens, vous savez, quand je lisais un peu les documents sur ces déplacements de population, un cimetière par définition n'est pas un lieu où on a des risques létaux, mais il faut tenir compte de la mémoire de cette population qui a besoin aussi de se recueillir auprès de ses anciens. Mmh. Quand bien même il serait décédé. Et vous imaginez ce que ça demande à une population de déménager. La ville du Carbet en Martinique, la ville du Lamantin aussi en Martinique.
De manière permanente. Hein.
Exactement, pour pouvoir permettre à ces populations d'avoir évidemment la vie sauve en cas de catastrophe, mais aussi de l'accompagner socialement et économiquement aussi, puisque ce n'est pas juste des maisons qu'il faut déplacer, il faut imaginer des transports, il faut imaginer l'activité économique qu'il faut remettre à un autre endroit. Un enfant d'Hugo, j'avais 9 ans quand l'ouragan Hugo a frappé mon île, donc moi j'étais victime. En Guadeloupe de cet ouragan. Boris ensuite est venu nous aider à reconstruire. Je fais des exercices tous les ans dans tous les territoires d'outre-mer. Je reviens à La Réunion au mois de décembre, la Martinique au mois de décembre aussi. On prépare un exercice de tsunami. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on parle de réchauffement climatique, mais ce ne sont pas les catastrophes naturelles qui tuent le plus. Ces 20 dernières années, 58% des morts de catastrophes naturelles entre 2000 et 2019, ce sont des séismes, des tsunamis et des volcans qui sont des risques supplémentaires à ceux dont on parle là. Donc on doit encore être plus exigeant sur ces risques que l'on peut anticiper, parce que sur ceux qu'on ne peut pas anticiper, hein, qui sont brutaux, et le 1er janvier au Japon nous l'a rappelé, ouais, la Turquie, le Maroc aussi, toutes ces catastrophes, comme le disait Boris, avec une occurrence qui est de l'ordre de la centaine, voire plusieurs centenaires, plusieurs siècles
mais
de
risques
qui arrivent plus souvent et qui sont majeur. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des tempêtes qui frappent plus ou moins certains endroits de l'Hexagone. 99, c'était majeur. Mais on a ces tempêtes qui vont être plus ou moins violentes. On l'a vu l'année dernière, ça a frappé surtout la Normandie et la Bretagne.
Sont quand même pas tout à fait les mêmes que tout ceux dans les Outre-mer, et ils ne sont pas appliqués de la même façon et pas respectés non plus de la même
Exactement.
façon.
Exactement. On est un insulaire, on est obligé de se débrouiller tout seul pendant quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines. Mm-hmm. Et donc forcément, et je le vois en tant que radioamateur, ces radioamateurs à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, tous les week-ends s'entraînent pour savoir comment ils vont pouvoir se contacter. Les exercices, pareil, là j'en fais un le 21 mars 2024, il n'a pas été fait correctement le 23 mars dernier, alors que la Martinique était l'épicentre. Pour rappel, hein, la catastrophe naturelle la plus grave qu'ait connue la France, c'est l'éruption de la montagne Pelée en 1902, 30 000 morts.
1 milliard d'euros, c'est le coût mondial des dégâts occasionnés par les catastrophes naturelles en 2023. Et en France, eh bien, ces dégâts, ils sont indemnisés par les assurances sur décision de l'État. Sauf que eh bien, notre régime des catastrophes naturelles est déficitaire depuis 2015 à cause de la multiplication des tempêtes, inondations, sécheresses et incendies. Alors pour compenser ces pertes, eh bien, une possibilité, c'est d'augmenter les tarifs des assurances. Bercy vient justement d'annoncer que la surprime qui permet de financer les indemnisations va augmenter de 12 à 20% à partir du 1er janvier 2025 pour les primes des contrats d'assurance habitation et pour celles de l'assurance professionnelle. Mais les assureurs peuvent aussi décider de ne plus couvrir les risques qui sont jugés trop fréquents, notamment pour les collectivités territoriales. Et c'est un petit peu la mésaventure qui est arrivée au Sable d'Olonne, qui s'est retrouvée sans assureur pour couvrir les dommages aux biens. La raison, 300 000 euros de dégâts occasionnés par la tempête Patricia en 2023. Et pour faire simple, assurer aujourd'hui les Sables d'Olonne en bord de mer, ça revient à assurer à perte. Résultat, la ville est pour le moment obligée de s'auto-assurer, c'est-à-dire assumer elle-même le coût des réparations de ses biens publics en cas de sinistre important, de quoi gréver les budgets des collectivités. Boris Veliachev,